Mémoire vive, présentée par Eve Cheftel et préparée par Rachel Rimer, une émission de la Fondation pour la mémoire de la Shoah avec RCJ. Bonjour, nous recevons aujourd'hui Claude Ventura pour son film Les Garçons de Rolin, un lycée sous l'occupation, produit par Flag Film Productions avec le soutien de la Fondation. Vous êtes, Claude Ventura, ancien élève du lycée Rolin, il faut le dire tout de suite, il est devenu Jacques Decour après la guerre, il est beaucoup plus connu sous ce nom. Et vous êtes parti sur les traces des fantômes, comme vous les appelez, qui hantent encore ce lycée parisien. Vous dites, en plaçant mes pas dans les leurs, j'avais l'impression de remonter le fil d'une histoire qui, à 15 ans près, aurait pu être la mienne. Les garçons de Rolin, ce sont de très jeunes gens, presque des enfants. Certains, déjà résistants, passent de la photo de classe à la photo anthropométrique, avant les pelotons d'exécution. D'autres entrent dans la milice ou la Waffen-SS. Et puis, il y a dans les classes ces chaises vides, au lendemain des rafles. Claude Ventura, comment vous est venue l'idée de faire un film sur les élèves du lycée Rolin pendant la guerre ?
Alors, d'abord, je voudrais préciser que je n'étais pas élève au lycée Rolin.
Ah, d'accord.
C'est pas grave, mais c'était comme si.
Ah,
parce
d'accord.
Parce que j'habite tout à côté. Et en fait, tout est parti de... C'est un peu compliqué. L'idée est venue, je passais devant ce lycée tout le temps. Et puis, il y a eu un bouquin qui est sorti de Bertrand Matteau sur, qui s'appelle « La guerre des cancres », qui parlait déjà de ce lycée pendant l'occupation. Et la production, Karina Siamed, m'avait proposé ce livre, l'adaptation de ce livre, enfin de, une adaptation très libre, de partir de ce livre. Et il se trouvait que ce livre, je l'avais lu parce que ça m'intéressait, c'était tout près de chez moi, voilà.
D'accord.
Et puis j'ai trouvé le nom de, parmi les jeunes qui avaient été au lycée pendant la guerre, j'ai trouvé le nom d'un ancien assistant à moi, beaucoup plus âgé, et qui lui faisait partie des jeunesses communistes et qui, dont le frère... en tant que communiste, est mort à Auschwitz, dans le convoi des militants communistes, le seul qui est parti à Auschwitz.
D'accord. La figure de Jacques Decour, hein, c'était son nom de résistant, il s'appelait Daniel Decour de Manche, fusillé donc au Mont-Valérien en 1942, a longtemps écrasé les autres figures, et tout le mérite de votre film, c'est justement... eh bien de leur rendre vie, enfin hommage, en tout cas vie, à ces résistants non communistes ou juifs. Hein. Il n'y avait pas que les résistants communistes.
Oui, il y a eu des résistants juifs aussi.
Oui. Et vous, et surtout, bon, Jacques Decour, enfin le nom de Jacques Decour ayant été donné au lycée, on en oublie en fait que de nombreux autres. Que les élèves aussi ont participé activement. Vous commencez par la grande manifestation du 11 novembre 40, on peut commencer par là.
C'était l'un des... Enfin, dans ce film, ce qui m'a guidé, c'est beaucoup ce que je ne voulais pas faire et ce dont je ne voulais pas parler en priorité. C'est sûr que c'était difficile d'éviter de parler de Jacques Decour, donc on en parle à la fin, mais il fallait qu'il soit présent sans l'être.
Mmh. Mais ce n'est pas un film sur Jacques Decour, voilà,
non,
que les choses soient claires.
Non, ce n'est pas un film sur Jacques Decour, c'est un film sur divers élèves, ça raconte l'histoire de divers élèves de Rolin.
Les garçons de Rolin.
Les garçons de Rolin.
D'où le titre.
Pendant l'occupation.
C'était il y a 70 ans maintenant que sont morts Jean Guay ou Charles Chonard. On va reparler d'eux. Est-ce que le lycée, est-ce que vous savez si le lycée a commémoré ces événements tragiques ? Est-ce que votre film a été projeté ou va être projeté aux élèves ?
Le proviseur du lycée l'a vu. Je pense qu'il va être projeté. Et oui, il y a eu des commémorations. Il y a d'abord ces plaques qui ont été mises dans tous les lycées parisiens sur les enfants juifs déportés. Il y a eu des commémorations depuis, disons, une bonne dizaine d'années, oui.
D'accord.
15-10 ans, oui.
Donc, ces fantômes, vous parlez de ces garçons comme des fantômes. Le souvenir de ces anciens élèves, qu'ils soient morts pour la France ou en déportation, reste présent dans le lycée. Vous avez
le
sentiment.
Mais
au-delà de votre cas personnel.
Pour trouver les fantômes, pour aller sur la piste des fantômes, il faut déjà qu'il y ait un décor. Et ça, le décor, le lycée est formidable parce qu'il est resté, à mon avis, plus pour très longtemps, mais il est resté vraiment dans son jus. Il y a très peu de choses qui ont changé. Sous les combles du lycée, il y a encore tous les registres avec le nom des élèves, leurs notes, leur classe, la profession des parents. Enfin, tout est là. Il y a toute une documentation qui avait été mise à jour par Bertrand Matthaud quand il avait fait son bouquin. Et moi, j'ai un peu pris le relais et j'ai été plus loin, quoi. Donc, il y avait tous ces écrits, les photos de classe aussi, qui sont fascinantes.
Et sur lequel votre décor. Caméra s'arrête très longuement. C'est vraiment très important dans votre film.
Absolument.
Aussi bien les photos que les bulletins.
Il n'y aurait pas eu les photos, je ne faisais pas le... Il n'y aurait pas eu le lycée, il n'y aurait pas eu les photos, il n'y aurait pas eu tous ces registres, tout ce qui concourait à mon émotion, quoi, et qui me faisait trouver un peu la voie que je voulais pour réaliser ce film. Et donc, ces photos, en fait, il y en avait très peu de gardées au lycée. Il a fallu en récupérer auprès d'anciens élèves. Et il y en avait très peu. Et surtout, les noms étaient rarement inscrits sur les... Donc, ça a été pendant 2 ans un travail de fou. À partir d'un nom sur une photo, de regarder à la loupe s'il n'est pas sur une autre... Et de pouvoir comme ça donner des
identifier,
noms.
Identifier
les visages. Et aussi les dates, parce que tous les ans, quand ils faisaient la photo de classe, le drapé par terre, en dessous les bancs, le soleil ne donnait pas exactement pareil. Donc, on pouvait, avec le truc du soleil ou le drapé du drap de fond, voir que c'était telle année plutôt que telle année. Donc, et ça a l'air tout bête comme ça, mais ça entretient énormément l'émotion. Il y a cette espèce de truc qu'on a souvent pas le temps de faire nous-mêmes quand on fait des documentaires et que j'ai fait moi tout seul pendant 2 ans avec mon assistante et une documentaliste, mais...
Un vrai travail d'historien, en quelque sorte. Hein.
Je ne suis pas historien, je ne suis pas journaliste, je ne sais pas où est... Je suis juste
cinéaste
là-dedans et j'avais besoin de m'appuyer sur... Je ne voulais pas faire un truc d'historien, pas
non,
un truc de journaliste.
Mais dans le sens où j'avais fait une enquête...
Oui, mais
comme
je me suis passionné comme quand on trouve des vieilles lettres ou des choses comme ça, ou l'émotion qu'on peut avoir, voir tous ces jeunes sur la photo. Je sais qu'un truc qui m'a guidé quand même, c'est de quelques bords qu'ils aient basculé, c'est que j'ai quand même eu une sorte d'empathie pour tous ces jeunes. Parce que c'est pour moi, c'est un film sur la jeunesse. À un certain moment, la jeunesse prise dans ce truc fou. Mais par exemple, ce qu'ils sont devenus après, ça m'a jamais intéressé. Voyez. Et ceux que j'ai interrogés...
Après la guerre, vous voulez dire.
Oui, après. Ceux que j'ai interrogés, qui sont revenus là sous les combles du lycée, je ne leur ai pas demandé ce qu'ils ont fait après, etc. Je voulais qu'ils ne me parlent que de ces années-là.
Alors, c'est tout à fait vrai ce que vous dites. C'est un film... sur la jeunesse, sur l'insouciance ou l'inconséquence de la jeunesse, même en temps de guerre, sur l'amitié. Je pense à ce film en noir et blanc qui ouvre le film, ce film amateur, tourné pendant l'hiver 40, c'est une bataille de boules de neige dans la cour du lycée. Et vous dites, en voix off, les tracts finissaient souvent en avion de papier.
Oui, je voulais...
Ils ne se font pas encore la guerre, ils se lancent des batailles, des boules de neige, mais bientôt, les destins de beaucoup vont basculer, vont diverger, les trajectoires vont diverger radicalement.
Alors qu'à cette manifestation du 11 novembre 40, il y avait des élèves de tous bords.
Alors là, je pense que c'est important d'y revenir.
Il y avait des élèves dont les familles étaient des familles d'extrême droite. Il y avait des élèves de la GEC, il y avait des communistes, il y avait... Tout le monde était là.
Alors qu'on rappelle bien, donc le 11 novembre 40, c'est les lycéens de Rollin qui organisent.
Non.
Avec d'autres lycées, c'est ça?
C'est d'autres lycées.
D'accord.
Il y a eu ce mot d'ordre qui est passé dans tous les lycées. Ne faites pas...
copier sur les cahiers comme
copier
ça
sur les cahiers ouais. et donner avec
donc les Allemands sont déjà évidemment présents à Paris enfin les
oui
les
oui
sont
depuis
là.
Ouais. depuis je crois le 16 juin ou 15 juin et donc ils vont tous là. Mais c'est après, par exemple, il y a le cas de...
Tout le lycée y va, hein. c'est ce que vous dites, c'est que tout le lycée y va...
Enfin, des garçons de tout...
De tous horizons,
tout bord,
voilà,
de
c'est
tous
ça.
De tous horizons, parce que, bon, le lycée Rollin, c'est un lycée très particulier, parce que c'est dans la région Est, pas loin des gares, et il y a eu énormément d'émigrants qui ont habité dans ces quartiers ou qui se sont retrouvés dans ce lycée. Beaucoup de juifs allemands, beaucoup de... Enfin, toute une génération qui a été poussée par l'arrivée des Allemands, enfin, du nazisme. Et donc, c'était pas comme dans les grands lycées de la rive gauche, quoi. C'était...
D'ailleurs, on voit la profession des parents parce qu'elle est indiquée dans les fiches
oui.
des élèves que vous, que vous filmez. C'est souvent des... Ils venaient de milieux modestes, hein. C'est des artisans, c'est des fils de,
oui, oui,
de boulangers. De...
Oui, oui. Beaucoup de commerçants aussi. Mais c'est après, là, par exemple, ces garçons de la GEC, donc, qui sont des militants catholiques, enfin chrétiens, très vite, il y a... Au départ, bon, la ligne à suivre, c'est celle indiquée par le maréchal, comme pour beaucoup de Français... Et puis, très vite, il y a ceux qui basculent vraiment dans ce qui va devenir la collaboration, et puis ceux qui rentrent dans la résistance. Donc c'est quand même, tous ces gens viennent de là. Un garçon comme Jean Gay, qui meurt fusillé par les Allemands à la Libération, est un militant de la GEC du premier jour, quoi.
Comme Jacques Frantz, qui, lui,
Jacques
va
Frantz,
finir...
Lui, son copain qui habite à trois maisons de là, lui, il finit dans la Waffen-SS, à défendre le nid d'aigle... Non, pas le nid d'aigle, qu'est-ce que je dis ? Le bunker d'Hitler.
Il y a trois groupes, en quelque sorte, qui se dégagent de votre film. Il y a, on va dire, les résistants, communistes ou non, les juifs, dont certains sont résistants, ça n'empêche pas, et les collaborateurs. Parmi les résistants, vous faites des zooms, si on peut dire, sur certains, comme par exemple Charles Gélinet, qui est une des chevilles ouvrières de la manifestation du 11 novembre, ou encore Charles Chonard, peut-être pouvez-vous nous en dire un mot de Charles Chonard, donc, puisque ça illustre
oui,
ce que vous disiez
c'est...
tout à l'heure, c'était...
Disons les deux extrêmes, je crois, parmi ces jeunes. Il y a Charles Chenard, qui est un jeune juif allemand dont le père était militant communiste, je crois député communiste, assassiné par les Allemands. Et qui
par les nazis, en 1934.
Nazis, pardon,
ouais. Ouais.
Par les nazis.
Non, non, mais c'est pour préciser
oui,
que
oui.
c'est en 1934.
Oui,
c'est...
oui, en 1934. Et lui... s'est engagé finalement à fond dans la lutte pour défendre ce pays qu'il avait accueilli, mais contre les Allemands quand même. Et de l'autre côté, il y a Jacques Frantz qui, lui, un jeune Français, au départ très nationaliste et tout, et qui bascule dans la Waffen-SS, qui prend l'uniforme allemand. Donc c'est deux destins assez...
Et au départ, ils sont tous les deux sur les photos de classe. Sur la même, est-ce qu'ils sont dans la même classe ? Je ne sais plus.
Non,
mais
ils
ne
sont pas. C'est un autre truc qui est compliqué. J'aurais tellement aimé que tous ces garçons
oui.
soient sur une même photo de classe. Voilà quoi.
Enfin, en tout cas, au départ, il y a une communauté de destin.
Oui.
Et ce que vous racontez, que par exemple, Charles Chonard est arrêté en mars 42, Salvagram, pour avoir tenté de poser une bombe à une exposition sur le bolchevisme et l'Europe, exposition qu'a visité Frantz, par exemple,
oui,
qui
bien
était
sûr,
très
il y a
anticommuniste.
Des... Oui.
Il a été jugé au procès de la Maison de la Chimie et fusillé en avril 1942. Ça, c'est pour du côté des résistants. Charles Gélinet, dont on parlait tout à l'heure, est mort de retour en déportation, je voulais le préciser. Et alors... On va passer aux collaborateurs, parce que vous en avez parlé. Il y a donc
enfin, disons, oui. ceux qui ont fait montrer une sympathie
oui.
Plus ou moins agissante
oui.
pour, pour l'Allemagne nazie, quoi.
Oui. Hein. C'est le cas, par exemple, de Marc Adam, que vous faites témoigner dans le film.
Oui, c'est un copain de Jacques Franz. Mais c'est ça qu'il y a dans ce... Il y a un truc assez fou, quand même. Il y avait, autour de Jacques Franz, qui devait être quelqu'un d'assez charismatique, il y avait 5-6 copains, tous venant de la GEC, et c'est très difficile à imaginer. Certains étaient dans la résistance, d'autres ou dans la milice, mais ils le savaient. Ils passaient leurs vacances ensemble. Ils les passaient avant la guerre, ils les ont passées pendant la guerre. Ces garçons passaient leurs vacances ensemble, ils discutaient, ils savaient très bien que l'autre... ils en parlaient. Moi, je vais partir dans la Waffen. Et l'autre était dans la résistance. Et ce ne sont pas des amis qui se sont séparés et qui se sont retrouvés après la guerre et qui se sont expliqués. Non, non, ils ont vécu ça en direct.
Ça, c'est une des parties très intéressantes de votre film. L'amitié entre Pierre Vignolet et Jacques Franz.
Et Jacques Franz.
Effectivement, ils passent leurs vacances ensemble à Combloux. Absolument. Et vous dites, il y en a un dans la résistance et l'autre, il est à la veille de s'engager dans la Waffen-SS.
Oui, bien sûr. Et d'ailleurs, il y a dans les papiers que m'a confié le fils de Jacques Franz, Eric Franz, qu'il en soit remercié, il y a un poème. J'ai trouvé un poème qui s'appelle... le don de soi, et qui, ça m'a stupéfait, c'était dédié à ceux de au FTP et à ceux de la Waffen-SS. Et dans les papiers de Vignolet, il y avait aussi ce poème, à peu près écrit avec juste quelques corrections, donc c'est un poème qu'ils ont écrit à quatre mains, vraiment, les deux, le résistant et le futur Waffen-SS. Ils ont écrit ce poème parce que ils disent, c'est ça, comme si le fait de ne rien faire, c'était la chose la pire, quoi.
Mm-hmm. Pendant... Il fallait s'engager, quoi.
Oui, oui, le don de soi, le don de soi. Alors, ça peut être interprété de 10 000 façons, hein, mais...
Ce qu'on retrouve d'ailleurs dans le témoignage de Marc Adam, qui est assez exceptionnel parce qu'on a, si je peux me permettre, le témoignage d'un salaud, même, entre guillemets, qui assume. Enfin, pas forcément salaud au niveau des actes, mais en tout cas...
Oui, moi, j'ai pas vu les choses comme ça.
Oui,
ça
d'accord.
Ça peut sembler étonnant.
D'accord. Oui, oui, c'est peut-être nous qui voyons
non,
quelqu'un qui n'a pas
c'est
de...
C'est des jeunes qui ont pris ce chemin, d'autres là. Et c'est pas... je sais pas... S'il n'y avait pas eu de ma part une façon... Une empathie pour tous ces destins, j'aurais pas fait le film quand même. J'ai pas fait ça pour régler des comptes ou quoi que ce soit. Enfin.
Non, c'est pas ça que je veux dire. Ouais. Mais Marc Adam dit quand même, à propos de Jacques Franz, donc je le rappelle, qui a défendu le bunker d'Hitler avec la division Charlemagne.
Oui.
Il dit, il s'est engagé pour la chrétienté dans sa carrière militaire allemande. Il avait un cœur d'apôtre. C'était un garçon d'une qualité morale indiscutable. Je ne le condamne pas, je le comprends. Pour un peu, je l'aurais suivi.
Oui,
quand on
oui,
sait
oui.
ce qu'a fait la Waffen-SS, voilà.
Oui, bien sûr. Oui, non, mais vous savez, ça a été très...
Mais c'est vrai que vous n'êtes pas là pour juger. Enfin, vous n'êtes pas dans une posture de
juge. Non, c'est pas que je refuse, c'est que c'est pas mon approche, quoi. C'est pas ça, c'est... je sais pas, c'est... En même temps, dans ce film... On est tout le temps confronté à l'histoire avec un grand H. Hein. On ne peut pas dire que c'est juste l'histoire de quelques mecs pendant l'occupation dans un lycée. Donc c'est un peu ça qui a été très, très difficile. Il fallait en tenir compte dans la chronologie, les choses qui se passaient en fin 40. Par exemple, pour les Juifs, ce n'était pas la même chose que l'été 42, par exemple. Et on voit très bien qu'en été 42, il y a...
On n'a pas parlé encore des élèves juifs. Il y a un ancien élève qui raconte dans votre film que dans sa classe, il y avait les deux fils du grand rabbin de Paris, Ovadia, il s'appelait. Mmh. Et qu'il dit, à cause d'eux, on n'avait jamais de devoir écrit le samedi matin, parce que c'était Shabbat, on n'écrit pas Shabbat. Il dit, ça n'avait soulevé aucune objection, on trouvait ça parfaitement naturel. Voilà.
Oui, je pense qu'ils disaient ça un peu parce que du coup, ils n'avaient pas à bosser, quoi. Je crois que c'est un peu
ça,
surtout.
C'est ça.
C'est plus ça, je crois que...
Mais du coup, ça contraste avec ce qu'on sait après du sort des Juifs qui vont être stigmatisés. Et d'ailleurs, les photos de classe, quand on voit l'étoile jaune portée par certains, c'est un coup, je trouve, qu'on ça saute au visage, quoi, cette étoile.
Je m'attendais à trouver beaucoup plus sur, sur les photos de classe. Et puis finalement, l'explication est venue assez simplement. C'est que à partir de... Donc, l'étoile, le port de l'étoile jaune, je crois que c'est mai 42, non ? Mai-juin, oui, c'est ça. Donc, d'une part, les photos de 42, ça se faisait au mois de mars. En général, les photos de classe, donc, c'était passé. Mm. Et à la rentrée 42, c'était plus du tout la même chose. Il y en a beaucoup qui avaient fui, d'autres qui étaient tombés dans les rafles. Donc, on en trouve relativement peu, quoi.
Mm-hmm. Alors, c'est le cas, par exemple, on peut citer parmi ceux qui ont été pris dans les rafles, Robert Bernheim, 13 ans en 1940. Vous dites que le professeur de français qui avait perdu un fils dans la drôle de guerre était très... Enfin, avait développé une animosité forte envers cet élève.
Oui, parce que c'était Norbert Bernheim, c'était un Allemand.
Un Allemand, voilà, c'est
avant,
ça.
Avant d'être
avant
juif.
D'être juif avant d'être une avant victime tout, du nazisme, c'était un Allemand.
Oui, oui.
Il échappe à la rafle du Veldiv et dans sa dernière lettre jetée du train vers Auschwitz, où il y a presque un trait d'humour, hein, je ne sais pas ce que vous en pensez, il dit « Maintenant, je suis vraiment dans la merde, c'est-à-dire un wagon à bestiaux. »
Oui.
C'est ça la jeunesse aussi.
Oui, enfin, bien sûr.
C'est d'être capable à ce moment-là de faire un trait d'humour et...
Oui, mais moi, ce qui m'a étonné dans tous ces destins et tout, c'est qu'il y a, bien sûr, il y a des lignes de force qui se dégagent, la famille de Jacques France, les origines, tout ça, mais il n'y a quand même rien de convenu. Il n'y a rien de... Je dirais... Et Pierre Vignolet qui écrit après la guerre, quand
c'est
il
important.
Écrit à son copain France, il signe Adolf Hitler... en personne, je pense que ça aussi, c'est un truc fou, quoi.
Pierre Vignolet qui a fait une lettre, hein, si je ne me trompe pas,
oui.
Pour un faux témoignage, en quelque sorte, pour que son copain,
oui.
Puisse réintégrer, on va dire, échappe enfin, aux poursuites.
Oui, c'était... Parce que quand même, il faut bien se dire qu'à partir de la libération, en tout cas, même quand il est rentré en 45... c'était très chaud quand même pour les garçons comme Jacques Frantz. S'il s'était fait prendre, ça s'est calmé après, mais l'épuration au début a été assez, assez forte.
Il y a un dernier point que je voulais soulever, c'est celui des registres que vous filmez aussi longuement, des fiches des élèves, leurs bulletins. Alors on voit leurs notes, on voit des observations des parents d'élèves, des professeurs, pardon. Et les élèves, d'ailleurs, parfois, découvrent ces commentaires des professeurs, sont même des fois un peu... ah bon, j'étais souvent en retard, etc. Enfin, on sent... Et puis, dans la case observation, parfois, on voit des mentions comme celle-là, arrêtée par les Allemands et fusillée le 16 août 44 pour Jean Guay, ou pour Charles Chonard, hein, qui donc sera fusillé, a quitté le lycée le 31-12-1940 sur invitation rectorale, propagande politique. C'est là où on voit que ces destins sont exceptionnels.
Enfin, oui, et sur la même page, on a « arrive toujours en retard » ou « traîne, fait du bruit avec sa chaise en classe », enfin des trucs...
Troisième en composition complètement... française, et puis les notes, et voilà. Et tout ça se mêle. Merci en tout cas, Claude Ventura. Pour ce très beau film « Les garçons de Rolin » qui sera diffusé sur France 3 le 3 octobre à 23h10. Surtout, ne le manquez pas. Il sera également projeté en avant-première au Musée d'art et d'histoire du judaïsme le 2 octobre à 19h30. C'était « Mémoire vive ». Deux adresses pour nous retrouver. www.radio-rcj.info, www.mémoirevive au pluriel.net. À dimanche prochain. Thank you.